Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous voilà de retour sur RMC, c'est le week-end des experts et après le jardin. Et avant de retrouver tout à l'heure Christian et Kia pour notre rendez-vous forme santé, on parlera du pain avec Christian et puis Raphaël Grabli, tout à l'heure entre 9h et 10h. C'est la maison, votre maison, 7-8 avec Christian Pessé. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher François.
Alors attendez, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui,
ah oui.
Mais c'est aussi une bonne année quand même.
Bonne année, bonne santé, ça n'a jamais été oui, aussi vrai, d'actualité. Ça, quoi.
Vous avez raison, il va falloir encore se protéger pour ce début d'année 2021. Donc bonne année à vous toutes et à vous tous. Hein. Vous le savez, c'est le dernier week-end des experts, on vous en a parlé il y a quelques temps de cela. Ce week-end des experts se termine pour laisser la place à partir de la semaine prochaine une matinale commune entre BFM TV et RMC, donc entre 6h et 10h vous retrouverez BFM TV, toute l'équipe entre 6 et 10 donc. Christian, pour cette dernière
oui.
Donc, de la maison,
eh ben ça va être chaud.
Ça va être chaud puisqu'on va parler de granulés, de chauffage au granulé.
Voilà, chauffage au granulé ou au pellet, comme on dit aussi.
Et quels appareils, quel combustible choisir, etc.
Voilà, Eric Vial, qui est le déglingué général de Propelet, qui est donc l'association.
Vous avez dit le déglingué général, je ne sais pas si ça va lui faire plaisir.
Non, le délégué général.
Vous avez de la chance, il n'est pas encore avec nous au téléphone. Il a peu de chance, il ne nous a pas entendu.
Et puis il ne peut pas me battre puisqu'il sera au téléphone.
C'est ça, vous risquez rien. Et puis comme c'est le début de l'année, ça passera bien aussi, il vous pardonnera. On retrouvera aussi votre coup de cœur tout à l'heure avec les dossiers de demande de subvention de l'ANA qui sont complets et validés.
Et qui normalement ont été payés.
Et qui ont été payés normalement.
Mais bon, voilà, on va voir, on peut peut-être avoir des retours. Moi, je suis toujours un peu sceptique quand... Ouais.
C'est l'État qui paye.
Voilà, c'est ça.
Vous ne savez pas trop. Et puis, dans un instant, ça sera la rénovation globale.
Oui.
Comment la réussir? Comment obtenir un maximum d'aide quand on rénove sa maison? Vous savez que ça va être l'un des gros challenges, l'un des gros défis de cette année 2021.
Énorme.
Et bien sûr, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez poser vos questions sur ce sujet au 32-16. Voilà, c'est votre maison. Encore une fois, tous nos vœux de bonheur. Et pour cette nouvelle année, en ce début 2021. Et on attaque avec vos questions. C'est Jérôme qui est là.
François, Christian, bonjour.
Eh bien, bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme et bonne année Jérôme.
Et une très bonne année à vous. Et merci pour vos conseils en tout cas. Et félicitations pour votre émission.
Merci.
Et bon vent à la nouvelle. Voilà.
Eh bien, écoutez, voilà. On souhaite à toute l'équipe de BFM TV qui va arriver la semaine prochaine, eh bien, plein de bonnes choses. Voilà. Mais en tout cas, vous allez nous manquer. Ça, c'est certain.
Ça, c'est clair. J'espère qu'on va vous manquer aussi.
Tout à fait.
Tiens, au passage, vous savez que vous pourrez continuer à suivre les conseils de Christian sur RénoInfoMaison.
Ah, RénoInfoMaison.com.
Votre site. Voilà, donc vous pouvez.
Avec beaucoup d'interviews et surtout, je réponds aux questions. Également.
Voilà, vous êtes présent sur Facebook, hein, Christian, là encore. Hein, donc, c'est pas parce que ce rendez-vous maison s'arrête que vous n'allez plus entendre parler de Christian Pessé. Bien
je
au contraire.
Je serai toujours là.
Il pourrait être même encore plus souvent avec vous, voilà. si vous le voulez.
24 sur 24, sur 7 jours sur 7.
Sur le web. C'est... Bon, ça risque de faire beaucoup, hein, personnellement, ouais. Hein, mais bon.
On s'en laisse pas, Christian.
Merci.
Bon, Jérôme.
Réno Info Maison.
Vous nous appelez, vous êtes où, Jérôme?
Alors moi j'habite à Lesnay-Marais près de Lille, à une dizaine de kilomètres.
D'accord, et ouais. On vous écoute, quelle était votre question?
Voilà, en fait j'ai sollicité une grande enseigne de bricolage afin de rénover ma salle de bain. Et donc celle-ci m'a proposé un devis qui était associé à un artisan. Celui-ci est donc venu à domicile pour confirmer la possibilité d'exécution. Suite à cette visite, j'ai reçu de la part du magasin un devis que j'ai accepté. Mais cependant, les conditions mentionnent que l'acompte avant travaux et livraison du matériel doit être égal à 100% du montant. Alors, je voudrais avoir votre avis parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait au minimum garder 10% montant qui est donné à la fin de la bonne exécution des travaux.
Mais moi, je suis extrêmement surpris de ce que vous me dites, parce que si je comprends bien, vous avez contracté avec une grande enseigne que vous pouvez citer si vous en avez envie.
Le roi Merlin, si vous le souhaitez. Voilà.
Bon, non, moi, je souhaite rien, mais vous pouvez, ici, on peut tout dire. Normalement, alors je n'ai jamais contracté, je n'ai jamais regardé de près quelles étaient les propositions de cette grande enseigne. Ce que je peux dire, c'est que d'une façon générale, les acomptes ne sont absolument pas obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un artisan, vous lui dites, voilà, monsieur, faites-moi un devis, je signe le devis. Quant aux conditions de paiement, eh bien, elles sont libres. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 10%, 20%, 30%, mais jamais 100%. Ça, moi, de toute façon, je peux vous dire. Bon, certes, les entreprises peuvent me connaître et se méfier dans ce qu'elles peuvent essayer de m'imposer. Mais moi, j'ai fait faire des travaux comme tout un chacun, comme vous, pendant toute ma vie. J'ai fait une rénovation globale il y a quelques années, pratiquement, on va en parler tout à l'heure. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'aide. Mais en plus, c'était une résidence secondaire. Mais je n'ai rien payé au début des travaux. Ça peut être justifié d'accord. De payer quelque chose, de payer une partie, de se mettre d'accord, mais vous n'êtes pas là dans un contrat de construction, parce que vous confondez, là, comme vous dites, je sais qu'on peut retenir, etc. Après, on est dans autre chose, on est dans de la rénovation, donc ça veut dire que vous pourriez très bien, par exemple, le classique, c'est de demander à peu près 30%. Pourquoi les entreprises demandent 30%? C'est pour financer les matériels, éventuellement des équipements supplémentaires, pour qu'elles puissent travailler avec une trésorerie correcte. Donc ça n'est pas du tout anormal d'avoir une entreprise qui vous demande par exemple 30% au moment où vous signez le devis, puis qui vous redemande 30% à la moitié du chantier.
Oui, c'est logique.
À une étape XY. Par exemple, si vous faites faire une toiture, vous pourriez avoir le moment où on pose la charpente. Imaginons, bon, bah, vous payez 30% à la charpente. Et puis après, vous mettez d'accord que à réception des travaux, au pied de l'échelle, ou bien un certain nombre de semaines après, bah, vous payez le solde. Donc là, le problème, c'est qu'est-ce que vous avez signé? Est-ce que vous avez signé un contrat? Est-ce que vous avez signé un devis? Et si dans ce devis, vous avez accepté déjà de payer 100%?
Alors, en fait, c'est un devis. Et juste à la fin de ce devis, c'est marqué conditions de règlement. Oui. Alors, 50% d'acompte minimum à la signature de la présente offre.
Oui.
Et le solde avant la livraison des produits à poser. Donc, je suis bien obligé de
fallait pas le signer. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir ce type de projet, faut refuser ça, puis c'est tout. Parce que le devis, il est à l'entête de la grande enseigne ou il est à l'entête de l'artisan?
C'est la grande enseigne.
Bon, bah, moi, je comprends pas.
Parce que
je vais les consulter, je vais les interroger, hein. Je vais les interroger parce que là, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait abusif.
Au départ, si je peux me permettre, juste au départ, j'avais demandé au service poste qui s'occupe justement de ce devis. J'avais dit, le matériel, forcément, je peux le payer, ce qui est tout à fait normal.
Voilà, oui, c'est ça.
Voilà. Par contre, pour la pose de la salle de bain, pour la rénovation, je m'étais dit, si je peux donner 30% du devis de l'artisan, ça me semblait pas mal.
De toute façon, vous payez à qui? À la grande enseigne? Parce que je ne sais pas comment il fonctionne.
Tout à fait.
Bon, c'est ça, écoutez, allez négocier avec la grande enseigne, si vous n'êtes pas d'accord, allez en négocier en disant, moi je demande l'annulation du devis, parce que je considère que ce sont des clauses abusives et...
C'est bizarre de la part de cette grande enseigne.
Oui, c'est très bizarre. C'est la première fois qu'on me dit ça. Puis vous leur dites qu'éventuellement, bah, vous pourrez aller à la DGCCRF pour savoir si cette pratique est vraiment légale. Vous savez, la Direction Générale de la Répression des Fraudes.
D'accord, le problème c'est que je possède déjà du matériel. Donc matériel a déjà été payé, donc j'ai un petit problème.
Voilà. Bah oui, voilà. Non, enfin bon,
on peut... Je vais quand même les consulter.
Ça vous servira de leçon pour une prochaine fois, et puis ça peut servir de leçon surtout à ceux qui envisagent de faire des travaux de la sorte.
D'accord, bah écoutez, merci à vous Christian.
Jérôme, merci beaucoup. Et à très bientôt.
Vive Renault Info Maison qui donne des bons conseils également.
Et bien voilà.
Merci. J'ai de la publicité faite par
Christian.
Auditeurs.
Si vous cherchez un directeur marketing, voilà. Vous avez vu le slogan qui vous a trouvé.
Tout à fait.
Vive Renault Info Maison. Mais ça vaut de l'or, quoi.
Bien sûr.
C'est... Merci beaucoup, Jérôme.
Merci.
Merci pour votre appel. C'était RMC. Le week-end des experts. On est là jusqu'à 8h avec Christian PC. Il est temps de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Tiens, pour la dernière, j'ai évité de recevoir le parpaing sur mon
pied. Oui, on a réussi là. Faut dire qu'on avait un casque comme il faut le faire.
On avait l'habitude.
On avait des chaussures à bout renforcées.
C'est ça.
Que je conseille toujours pour les chantiers lourds.
Christian,
oui.
On parlait de rénovation là avec Jérôme, on va y rester avec une rénovation cette fois-ci globale.
Voilà, alors bon, la rénovation énergétique des logements, chacun comprend que ça rend la maison plus confortable et moins énergivore, c'est devenu une évidence. Le gouvernement y consacre des budgets extrêmement importants, c'est aujourd'hui le rôle de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, dont la mission est de distribuer ces aides. Il faut bien savoir que l'objectif pour cette année, c'est 600 000 logements. Alors bon, on va bien voir, on n'a jamais dépassé 150
000. Oui, c'est très ambitieux.
Bon, là, c'est extrêmement ambitieux. Alors, le barème, j'en ai déjà parlé, il est quand même assez complexe, il permet de subventionner, alors j'ai fait le compte avant de venir, 27 aménagements ou équipements tels que l'isolation des combles, l'installation d'une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire, etc. C'est bien, mais ces différents postes d'aménagement et d'équipement, bah, ça permet pas toujours d'obtenir les résultats optimum et significatifs en matière d'économie d'énergie et même d'économie de dépenses, donc pour le particulier. Alors c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'encourager la rénovation globale de l'habitat en améliorant plusieurs points faibles simultanément, comme justement la toiture, les murs, les fenêtres, les planchers bas, etc. Alors depuis le 1er octobre 2020, vous savez, le dispositif d'aide assez conséquent qui est celui de MaPrimeRénov', conçu poste par poste, est étendu pour faire bénéficier donc d'un véritable projet cohérent, structuré de rénovation de l'habitat. Alors ça concerne qui ? Ça concerne des propriétaires occupants et ça concerne les bailleurs, alors dont la propriété est mise en location, mais pour une résidence principale. Moi, je me demande comment on vérifiera ça, parce que vous louez à quelqu'un.
Comment peut-on vérifier ça ?
Moi, alors là, bon, ça fait partie des mystères. Il y a quelques technocrates qui ont pensé ça de leur côté. Je sais pas.
Ou alors une déclaration sur l'honneur.
J'en sais rien. Pour répondre à ces, pour y prétendre à cette subvention donc de rénovation globale, eh bien, il faut que ça aboutisse à faire baisser la consommation du logement, alors là aussi de 55%. Pourquoi 55? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 60? C'est encore un mystère administratif.
Bah, ce sont les technocrates les mêmes qui ont dû se réunir.
Et donc, ces travaux doivent aussi faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du logement. Alors, ce qui est très important, et là, je pense que c'est très bien, la rénovation, elle doit s'appuyer sur un audit énergétique qui, par ailleurs, est subventionné. Ça permettra d'instruire le dossier auprès de l'ANA, parce que sinon, c'est pas jouable. Il faut évidemment que l'entreprise soit RGE, les entreprises soient RGE, reconnues garantes de l'environnement. À partir de là, les travaux feront l'objet d'une attestation de conformité en accord avec les exigences des pouvoirs publics. Il peut même y avoir aussi un accompagnement dans les travaux, donc on voit que c'est quand même assez costaud. En cumulant les aides, puisque vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, les fameuses primes qui peuvent vous être distribuées, j'ai fait un peu le calcul, c'est entre 10 et 15 000 euros de subventions qui peuvent être attribuées selon la catégorie, c'est catégorie moyenne et catégorie supérieure, plus un bonus encore sortie de passoire thermique et un bonus bâtiment BBC qui peut être de 1 000 à 2 000 euros. Et on peut arriver quand même au maximum à 17 000 euros au moins de subventions, c'est énorme quand même, hein, plus les aides locales. Parce qu'on ne pense pas souvent aux aides locales. Il ne faut pas hésiter à appeler sa mairie, à appeler le conseil départemental pour savoir s'il y a des prix. Le conseil régional également, c'est souvent des aides locales extrêmement significatives. Alors on comprend que la rénovation globale, c'est l'idéal. Sauf que, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que 17 000 euros, ça ne va pas couvrir la totalité, évidemment, des frais. Ça, et puis, si vous faites une rénovation globale, pendant qu'il y a des travaux, quand on vous change toutes les fenêtres, quand on vous change, on fait de l'isolation, évidemment, très souvent, vous ne pouvez plus être chez vous.
Bah non.
Donc, il faut aussi envisager l'éventualité du relogement, ou vraiment non, bien s'organiser.
C'est des travaux qui ne se font pas en quelques jours, hein, je veux dire.
Voilà. Mais je pense que dans l'avenir, on va voir, je pense qu'à partir de, 2022, ça va être vers ça que les pouvoirs publics vont pousser, parce que c'est là que les résultats peuvent être véritablement quantifiables. Mmh. C'est là qu'on sait que ça va être significatif, et quand on pense à 600 000 logements, je ne sais pas combien il y en aura l'année d'après, mais en tout cas, il y en a une bonne part qui devront passer par la rénovation globale.
Christian, rappelons la procédure pour savoir si notre maison est éligible, etc. Il y a un site, c'est FER.
C'est FER, www.fer.fr. Ça va vous permettre aussi d'accéder à un conseiller. Je plaide très fortement pour qu'il soit plus nombreux.
Oui, parce que c'est ce que vous nous répétez régulièrement, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a quand même pas beaucoup, et surtout, il y a de plus en plus de dossiers.
Ils doivent être hyper sollicités, parce qu'il y a quand même pas mal de
publics. Vous savez que rien que cette année, il y a eu 170 000 dossiers.
Oui.
Donc c'est pas énorme.
D'accord.
Donc voilà.
Et puis après, conditions de ressources, tout dépend. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu aussi.
Moi, je plaide aussi pour une simplification, parce que là, on voit qu'on a quatre catégories, plus une cinquième, la copropriété, multipliée par, je vous ai dit combien, 27 postes.
Oui, ça fait beaucoup. Rappelons aussi que les copropriétés peuvent bénéficier de ces aides. On en avait parlé il y a quelque temps de cela. Mais si, par exemple, vous décidez de rénover votre immeuble, ou si la copropriété décide de rénover cet immeuble, il y a la possibilité de se faire rembourser une bonne partie en fait de ces frais.
On parlait de mon site tout à l'heure, on trouve les barèmes dessus.
Ah.
Les barèmes de l'ANA et de la rénovation.
Voilà, Réno Info Maison pour suivre Christian PC. Christian, on va revenir dans un instant. La météo arrive à suivre sur RMC dans ce rendez-vous maison. On va se chauffer au granulé.
Oui.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que le chauffage au granulé?
C'est pas encore très connu.
Non, c'est clair. Quels appareils sont disponibles? Le combustible, est-ce qu'il y en a plusieurs? Voilà, est-ce qu'il y a plusieurs qualités, etc. Est-ce que ça se consomme vite, par exemple? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça pollue, tiens?
Alors on va pouvoir les particules.
Le chauffage au granulé. Et puis, bien sûr, vos questions. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo que voici avec Claire Navarro.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
Ah, il est prêt à flamber la baraque. Hein.
7h, 8h.
Votre maison.
Tant mieux. De grandes baraques inchauffables, bien sûr.
François Sorel.
Des granulés. Non, c'est très gentil.
Ah, si, prenez-les tout de suite, sinon vous oublierez.
Christian Tessé.
Et c'est vrai que les granulés ont plusieurs significations et plusieurs, actions.
N'est-ce pas, bien sûr.
Ça peut soigner.
Oui, ça peut-être nourrir les chiens aussi.
Les granulés, oui, tout à fait.
Les chats,
pourquoi pas aussi. Comment va votre chat?
Eh bien, mon nouveau chat, Émile, est tout à fait adorable. L'avais mis, d'ailleurs, j'avais promis, j'ai mis sa photo sur,
tout à fait, je l'ai
sur
vu.
La page Facebook.
Il est tout rouquinou, il est tout joli.
Oui, il est un peu timide.
Il est un peu timide. Oui. Bah, il est un peu comme vous, pas trop les flashs.
Il est très réservé.
Vous lui avez souhaité une bonne année, j'espère.
Bah, évidemment.
Bon,
évidemment.
Bonne année, Émile. Christian, il est temps de retrouver notre dossier de ce samedi matin. On va parler de chauffage au granulé.
On va parler de chauffage au granulé. C'est une énergie, c'est une forme de combustible qui est apparue il y a quelques dizaines d'années maintenant, et qui prend de plus en plus d'importance sur le marché. Nous avons avec nous en ligne Éric Vial, qui est délégué général de Propelet. Bonjour, monsieur Vial.
Bonjour, Christian.
Bonjour.
Bien,
bonjour aussi, pardon.
votre structure, c'est l'Association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors pourquoi ça s'appelle Propelet, si c'est du granulé?
Ouais, c'est les pros du pelet, on va dire.
D'accord.
On est une structure qui regroupe l'ensemble des métiers qui touchent au chauffage au granulé de bois.
D'accord, parce que le pelet, il y a une différence entre pelet et granulé?
Non, c'est pellet, c'est la version anglophone du mot granulé, en fait.
Ah, donc d'accord.
On parle des deux de manière courante.
D'accord. Alors moi, la première question que je vais vous poser, c'est le granulé, c'est quoi? Parce qu'on en a vu, peut-être que des auditeurs n'en ont même peut-être jamais vu. Vous pouvez me donner une définition, une description de ce que c'est qu'un granulé?
Oui, alors très simplement, c'est un petit cylindre de sciure compressée qu'on va voir maintenant un peu de partout dans les commerces grande distribution comme tu es spécialisé.
D'accord, alors ce petit cylindre, il est constitué de quoi? Il y a des additifs, il y a de la colle dedans, il y a quoi pour que ça soit compact comme ça?
En fait, c'est le mode de fabrication qui fait qu'il se tient tout seul. C'est la pression qui est exercée lors de production qui va faire qu'avec la lignine du bois, il va rester collé. Donc, c'est un produit qui est 100% naturel, 100% bois.
Donc, il n'y a pas d'additif pour agglomérer, en fait, ces granulés, c'est ça?
Alors, d'une manière générale, on va dire en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'additif. Il y a quelques usines qui utilisent des additifs. La norme impose maximum 2% d'additifs. Et les additifs, c'est souvent de l'amidon de maïs parce que c'est ce qui va le mieux pour et le moins cher pour faire du pour compacter le granulé.
Donc c'est de la sciure.
Et en France, encore une fois, ouais.
C'est de la sciure. Elle vient d'où cette sciure? C'est du bois qu'on transforme en sciure ou ça vient d'où?
Alors on va dire à pratiquement 100%, 95%, c'est de la sciure ou des plaquettes qui sont rebroyées en sciure, qui sont issues de l'industrie du bois, comme essentiellement, on va dire, le sillage, voire le rabotage.
D'accord. Donc ce n'est pas du bois de récupération, jamais?
Non, ça peut pas être du bois de récupération. La norme, entre guillemets, l'interdit parce qu'il faut que ça soit du bois, comme on dit, vierge.
Voilà,
c'est-à-dire du bois issu de première transformation du bois.
Moi, je vais vous dire, je trouve que c'est très bien parce que je ne cesse de, non pas de dénoncer, mais d'évoquer le fait que, par exemple, dans les isolants, on vous met des isolants à base de bois, mais c'est souvent de la récupération, aussi bien de volets qui ont été peints, vernis, alors que là, c'est pas le cas.
Non, là, c'est pas le cas.
D'accord. Alors, on dit qu'il y a un rendement extrêmement élevé par rapport à la bûche. C'est quoi comme rendement? Alors, vous me direz que ça dépend des appareils, mais c'est quoi comme rendement? Et pourquoi il y a un si bon rendement du granulé?
Alors, les rendements, on va dire, sur un poêle, on va être au-delà de 85%, et sur une chaudière, on monte à au-delà de 100%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est lié à la condensation de l'appareil.
Ouais.
Après, pourquoi le rendement est si élevé? Premièrement, parce que le granulé, c'est un bois qui est, du fait de la compression, est très dense. C'est plus dense que du bois naturel, entre guillemets.
Ah, et c'est la densité.
Et puis, voilà, la densité, mais aussi, et vous me posez la question par rapport à la bûche, la différence, c'est que l'appareil de combustion, il va gérer automatiquement à la fois les entrées d'air et les quantités de combustible nécessaires. Et dans ce fait, il va vraiment optimiser à fond la combustion et donc à apporter un rendement très important.
Ouais. Alors vous me faites une transition directe. C'est les appareils. Alors quels sont les appareils dans lesquels on peut brûler du granulé?
Alors il faut que ça soit un appareil dédié au granulé.
Ouais.
On va pas pouvoir mettre du granulé dans un appareil à bûche. Alors techniquement on peut, mais ça n'a pas d'intérêt. Et on n'aura pas les avantages du granulé en faisant ça. Donc c'est un appareil dédié au granulé. Et après, tous les types d'appareils, que ce soit poêle, chaudière, insert, cuisinière à bois, à partir du moment où elles sont équipées spécifiquement pour le granulé, c'est des appareils qui fonctionnent au granulé.
D'accord, ce que ça veut dire qu'il y a une part notamment d'électronique qui va gérer, suivant, comme vous le disiez, la nécessité d'amener de l'air, etc., c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Mais alors, le granulé lui-même, il doit avoir des caractéristiques précises, mais par exemple, en matière, quand on brûle quelque chose qui est à base de bois, on parle immédiatement de séchage. Alors, est-ce que le taux d'humidité du granulé est forcément, à l'origine, donné, précisément en termes de normes, et est-ce qu'ensuite, il peut pas se charger d'humidité quand il est chez vous?
Alors, de par la norme, le granulé doit être à moins de 10% d'humidité, donc très sec.
Oui.
Et de toute façon, s'il était à plus d'humidité, il serait plus un granulé.
Il se désagrège.
Ah oui. La forme de sucre. Ouais, il se désagrège.
Oui.
Le granulé tel qu'il est stocké chez le particulier ou chez les intermédiaires, il ne reprendra pas l'humidité. Le granulé il reprendra peut-être 1%, mais il prend très peu d'humidité. Le seul danger pour lui, c'est le contact avec du liquide. C'est pas l'humidité de l'air qui va avoir une grosse influence sur lui. C'est surtout le liquide. C'est-à-dire qu'en clair, si de la pluie tombe dessus ou s'il est stocké à un endroit où il y a de l'eau qui va toucher, là, il va gonfler comme un pop-corn, quoi.
D'accord. Ouais, ça, voilà. Si on fait du pop-corn dans le poêle, c'est embêtant, quoi.
Voilà.
Puis il faut pas se tromper parce que ça doit être moins bon que le pop-corn, quand même. Mais,
alors, vous m'avez dit 10%, hein, d'humidité.
Oui, c'est l'humidité, moins de 10%.
Moins de 10%. Faut rappeler que le bois sec, c'est-à-dire celui qui est en norme de idéal pour brûler, c'est 20%. Hein. Donc, ça veut dire que le bois bûche, c'est 20%. Alors, on comprend effectivement que moins d'humidité et puis plus de compression, c'est-à-dire moins d'air aussi. Il y a moins d'air que dans une bûche. C'est ça qui fait donc le rendement.
Ouais, le rendement est encore une fois l'automatisme de l'appareil qui fait que l'homme n'intervient pas et qui fonctionne en fonction des conditions qu'on lui a demandé d'atteindre et puis des conditions de la pièce.
Bien sûr. Alors j'en profite aussi là par rapport au matériel, c'est que la prévention qu'on peut avoir sur ces matériels sophistiqués, c'est à la fois un problème peut-être d'entretien spécifique et en même temps c'est quand même aussi la problématique qu'il faille de l'électricité en permanence pour que le poêle ou la chaudière fonctionne. Mais j'ai cru comprendre que des fabricants avaient trouvé la parade.
Oui, alors déjà, première remarque, il n'y a pas beaucoup d'appareils de chauffage sur le marché qui ne fonctionnent pas avec l'électricité. Et l'électricité, sur les appareils de chauffage, c'est quand même la rançon de l'automatisme du confort.
Oui, d'accord, mais j'ai un poêle à bois, il n'a pas besoin d'électricité.
Ça, c'est sûr. Après, tout à fait. Alors là, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a plusieurs constructeurs qui offrent des systèmes intégrés à l'appareil je pense surtout aux poêles, pour fonctionner soit en permanence, soit sur une période donnée sans électricité. Et puis il y en a d'autres qui fournissent une connexion pour pouvoir brancher une batterie ou quelque chose.
Ah d'accord, on met une batterie à ce moment-là. Voilà. S'il y a une panne, on a entendu quand même Madame la ministre Pompidine nous annoncer des coupures de courant pour cet hiver. Ah ouais. Donc il faut être là. On a intérêt donc à avoir une batterie parce que sinon il y a rien à faire. Non, ça marche pas là.
Non, ça marche pas. Alors, il y en a certains qui fonctionnent. Il y a de nouveaux modèles maintenant qui existent avec des systèmes qui fonctionnent sans électricité. Mais sans électricité, on n'atteint pas les performances d'un poêle qui fonctionne à l'électricité.
Alors, question de stockage, puisque vous nous disiez
que c'est la question que j'allais poser, Christian. Devancez, c'est très bien.
Comment on fait parce que il faut qu'il y ait une alimentation permanente, parce que on a aussi la possibilité de remettre des granulés à la main. Mais enfin, ça.
Oui, remplir un mini réservoir.
Ouais, comment ça fonctionne?
Alors, il faut dissocier deux appareils, le poêle et la chaudière. On va commencer par la chaudière.
Oui.
La chaudière, c'est un appareil qui fonctionne en théorie avec une autonomie d'un an. Donc, on lui adjoint un silo qui va comme une cuve de fioul, on peut dire, qui va servir pour approvisionner le granulé dans la chaudière automatiquement, sans intervention humaine. Le seul contrainte, c'est de faire remplir son silo une fois par an, comme on fait avec du propane ou avec du fioul.
Mais c'est grand. Voilà. C'est de grande taille.
Si vous voulez avoir une autonomie sur une chaudière qui va chauffer une maison de 150 mètres carrés, on va dire, ou même 120 mètres carrés, pour avoir une autonomie d'un an, c'est 3-4 tonnes. Et donc, ça veut dire ça fait 2 mètres carrés au sol, quoi, à peu près, voire un petit peu moins.
D'accord. Et en hauteur idéal, et en hauteur, ça fait combien?
En hauteur, c'est 1,50 m à 2 mètres.
2 mètres, okay, d'accord.
Là, c'est la solution idéale qui permet d'avoir le confort maximum, puisqu'on n'a plus à s'occuper de la logistique du granulé. Maintenant, il existe aussi aujourd'hui, c'est de plus en plus, ça se développe de plus en plus, c'est des chaudières avec des silos de taille réduite qui jouxtent l'appareil.
Oui, et qu'on recharge plusieurs fois par an. Donc.
Voilà, on recharge plusieurs fois par an.
Comme on le fait avec une citerne fioul, hein, ou une citerne fioul.
Voilà. C'est un peu plus fréquent parce que on a que 200 à 300 kilos de granulés stockés. Ça permet d'éviter, ça limite l'espace nécessaire, et puis ça permet aussi d'éviter de faire certains ça peut se comprendre, on ne peut pas sortir 800 ou 1000 euros d'un coup sur l'année, ils préfèrent l'étaler, donc ils approvisionnent par petits bouts le granulé dans un petit silo.
Et ça veut dire qu'à chaque recharge, je suis obligé de faire venir quelqu'un ou je peux moi recharger?
Non. Alors sur le silo de taille importante qui va avoir une autonomie d'un an, c'est un professionnel qui va venir avec un camion, ce qu'on appelle un camion souffleur, qui va souffler le granulé dans le silo. Donc avec un tuyau un peu, on se compare souvent au fioul parce que c'est un peu le même procédé. Il y a un silo de stockage et on a un camion citerne qui vient souffler du granulé.
Bien sûr. Est-ce que c'est
Mais juste pour qu'on termine là-dessus. Donc ça c'est pour les gros silos, mais pour les petits, donc c'est le particulier qui va recharger, c'est ça ?
Avec des sacs, avec moyen. Mais là on a parlé que de la chaudière. Après vous avez l'autre mode de chauffage, c'est quand même le poêle qui est quand même en nombre d'appareils le plus important. Là l'approvisionnement, c'est soit la personne elle va approvisionner au coup par coup dans les magasins à proximité de chez elle par quelques sacs, voire dizaines de sacs. Soit elle se fait livrer une tonne sur une palette que le livreur va aller mettre au fond du garage de manière propre et le client se sert au fur et à mesure des sacs. Mais là, c'est encore il manipule des sacs par contre.
En termes d'économie, alors stricto sensu, je vais dire du combustible lui-même. Comment ça se situe par rapport aux autres combustibles ?
Alors, par rapport à l'énergie électrique, le granulé au kilowattheure, il est 3 fois moins cher.
Oui.
Par rapport au gaz propane, c'est 2,5 fois moins cher. Par rapport au gaz de ville, c'est 30% moins cher en ce moment, parce qu'il y a quand même des fluctuations régulières des énergies fossiles. Par rapport au fioul, en ce moment, c'est 20% moins cher. Et en gros, c'est 20 à 50% moins cher par rapport au fioul en fonction de la période. Il y a un an, ça aurait été 50% moins cher. Là, en ce moment, on est plutôt à 20-25% moins cher.
Il y a l'électricité.
L'électricité, c'est 3 fois moins cher.
3 fois moins cher,
Donc on peut dire que c'est quand même... est-ce que c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est la bûche ?
Le bois est l'énergie la moins chère, le granulé est la plus chère des énergies bois, mais la bûche est moins chère, encore que tout dépend comment on gère la bûche. C'est-à-dire que on peut toujours trouver des prix très bas, mais il faut toujours faire attention à la qualité aussi sur la bûche. C'est un peu la chose où il faut recommander aux gens d'être très attentifs.
Le prix d'une chaudière, c'est quand même élevé, mais on va parler MaPrimeRénov, puisque c'est quand même fortement subventionné.
Alors, la chaudière, il faut compter à installer, prête à fonctionner, c'est entre 8 000 et 20 000 euros. Suivant les cas et suivant les modèles. Sur un poêle, c'est 2 000 à 7 000, grosso modo.
Vous me parlez du prix du matériel.
Je vous parle de l'installation, parce que le prix du matériel, ça ne va pas aider.
Oui, d'accord.
C'est clair pour le particulier. Ce qu'il faut qu'il sache, c'est moi, je le commande, on me l'installe, je n'ai plus qu'à m'en servir. Ça va me coûter pour un poêle entre 2 000 et 7 000, et sur une chaudière, entre 8 000 et 20 000. Bon, et ça, c'est l'immense majorité des appareils qui sont là-dedans.
D'accord. Et puis c'est quand même fortement subventionné, puisque j'ai ma petite bible, vous savez, maintenant j'ai quand même la documentation de 34 pages de MaPrimeRénov
que vous lisez tous les soirs.
Que je lis tous les soirs et j'observe que en barème bleu, c'est-à-dire pour les moins favorisés, je vois chaudière à granulés entre le forfait MaPrimeRénov et l'estimation du montant des C2E, les fameuses primes énergie, je vois 14 000 euros quand même de subvention pour une chaudière et je vois presque 4 000 euros pour un poêle, c'est ça ? Ça vous
c'est
confirmez ?
C'est ça, pour les ménages les plus défavorisés, oui c'est ça.
C'est-à-dire la formule bleue, puisque vous savez qu'il y a des couleurs.
La formule bleue, ça fait que l'équipement peut ne pas coûter grand-chose ou pas coûter d'argent du tout à un ménage très modeste.
En revanche, l'installation n'est pas subventionnée, c'est ça.
Ouais, mais après avec les aides, ça peut rentrer dedans. Et après, c'est pour ça qu'on voit fleurir sur le marché des offres à 1 euro ou à 0 euro.
Mais tout le monde a droit à des aides, même si j'ai des revenus, on va dire, supérieurs. J'aurai quelque chose quand même, ou pas ?
Alors, si vous êtes parti des 20% des ménages les plus aisés, vous allez avoir beaucoup moins d'aides. En tout cas, il n'y aura pas d'aide MaPrimeRénov. Mais vous avez quand même encore, avec le coup de pouce C2E, vous avez encore un peu d'argent qui va vous être fourni. On va avoir sur les poêles à peu près 500 euros et sur les chaudières à peu près 3000 euros.
2737.
C'est le prix officiel, c'est la valeur officielle, mais avec les marques arrondissent souvent à 3000, il y a toujours des. Voilà, il faut compter à peu près 3000 euros.
D'accord. Et là, on n'a pas le droit à d'aide pour l'installation, c'est ce que Christian disait tout à l'heure.
Non.
Si on a des revenus supérieurs, c'est simplement que sur les produits.
Voilà, c'est l'aberration totale, d'abord que l'installation ne soit pas prise en charge. mais aussi c'est le conduit de fumée qui est pas pris en charge. Hein, alors c'est quand même simplifié par rapport à un poêle à bois.
Simplifié, non, c'est pareil.
On peut passer quand même. On peut passer quand même avec des diamètres inférieurs.
Ah oui, en termes de section, c'est inférieur. Mais voilà. Par exemple, quand vous avez un poêle, les poêles, par exemple, ce qu'on appelle les poêles étanches, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'air de combustion à l'extérieur.
C'est pareil.
C'est un peu plus compliqué parce que c'est un double conduit.
C'est un double conduit.
Dans tous les cas, c'est pour le particulier, ça se ressent pas. C'est le professionnel qui fait.
Mais alors, on peut pas marcher en ventouse? Comme un...
Tout à fait. Poêle et chaudière. Poêle et chaudière peut fonctionner avant tout.
Voilà,
sous certaines conditions. Il y a certaines conditions.
Oui, de hauteur, d'installation qui doit être respectée. De voie publique, etc. Mais on peut donc avoir une. Alors là, cette fois, au niveau du conduit, c'est complètement simplifié puisqu'il n'y en a plus. On est bien d'accord.
Bah oui, il y a quelques centimètres, voilà. Un mètre ou deux.
Ouais. Pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est comme à ce moment-là, comme une chaudière à gaz, à ventouse, qui est simplement donc avec une sortie de même type, donc.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est quand même très intéressant. Beaucoup de travaux, non? Pas spécialement. Il y a rien de particulier.
Sur une chaudière, c'est généralement on remplace une autre chaudière qu'il y avait en place avant, donc on la met à la place et puis il peut y avoir des changements d'emplacement de ce conduit de sortie de fumée, mais globalement.
Bien sûr. Dernière question pour moi, parce que François peut encore en avoir.
Non, mais après, je crois qu'on a fait le tour.
Les garanties des matériels, c'est garanties combien?
Bah, les garanties sont en fait obligatoires. La loi impose 2 ans de garantie. Et il n'est pas rare de voir, il est même très fréquent de voir, notamment sur les chaudières, des garanties sur le corps de chauffe de l'ordre de 5 ans, voire 7 ans.
Et même, même obligation donc de révision annuelle pour toutes les chaudières. Pour les poêles aussi, non? C'est étendu ou pas?
Alors, les chaudières, il y a un entretien par un professionnel obligatoire annuellement. Pour les poêles, ce n'est pas obligatoire, mais la filière recommande fortement d'avoir un entretien parce que c'est une garantie de bon fonctionnement et de pas d'embêtement pendant l'année. Quoi.
Voilà, contrat de maintenance, c'est bien.
Merci beaucoup, Eric Vial.
Merci, Eric Vial.
Délégué général de Pompélé. Christian, c'est une solution que vous conseillez, le chauffage au granulé. Hein.
C'est une bonne solution. Alors, on n'en a pas parlé, mais pour les poêles à granulé, ne rêvons pas. C'est-à-dire, souvent, on pense qu'un poêle à granulé, on va mettre un poêle à granulé à la maison. Comme c'est très efficace, ça va suffire. Il faut faire attention que la centralité de l'appareil fera que, de toute façon, si vous avez une chambre au bout du couloir, elle ne sera pas forcément chauffée efficacement. Donc, il y a aussi des systèmes de récupération de chaleur, comme sur les poêles d'ailleurs, comme sur les poêles à bois ou granulés. Mais il faut bien réfléchir à cela. Faut pas imaginer qu'un seul appareil au milieu, ça peut toujours convenir.
Christian, votre coup de cœur dans un instant. Hamza sera avec nous, qui est en projet de construction. Elle aimerait avoir des conseils sur les faîtages de tuiles. Hamza.
Oui.
Et on en parle dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de votre maison. Et je vous rappelle que tout à l'heure, vous retrouverez Christian Ekia pour la forme et la santé. Christian, avant de retrouver votre coup de cœur, eh bien, nous accueillons Hamza au 32-16. Bonjour Hamza.
Oui, bonjour. Bonjour papa. Bonjour Christian.
Bonjour Hamza et bienvenue.
Merci.
Alors, on vous écoute.
Alors, moi j'avais deux petites questions.
Alors, ça, je me méfie. Je me méfie quand on me dit deux petites questions.
Non, ça va à son rapide normalement. Alors, ma première question, en fait, alors j'ai un projet de construction et j'ai un système de chauffage, un plancher chauffant en bas et des radiateurs à eau en haut. Et j'aurais voulu savoir, en fait, est-ce qu'il fallait mettre absolument deux thermostats d'ambiance ou juste un seul?
Alors ça, c'était votre première question. La deuxième, Hamza, s'il vous plaît.
Alors, la deuxième question, c'est concernant les faîtages. Alors, c'était quoi, en fait, je voulais savoir, c'était quoi le mieux par rapport à un faîtage scellé ou à un boîtement?
Alors, là, je réponds tout de suite à la deuxième question. Moi, je suis favorable au scellé. à condition que ça soit scellé correctement, c'est-à-dire avec avec un mortier qui ne risque pas de se fendiller, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit, il vaut mieux que ce soit fait quand il ne fait pas trop chaud, quand il n'y a pas trop de soleil, pour que le séchage du mortier se fasse lentement, puisque je vous rappelle que les mortiers, les bétons, ça sèche au contact de l'eau. Donc c'est un ion hydraulique, et si jamais ça chauffe de trop, si l'eau s'évapore trop rapidement, l'eau du mortier, eh bien évidemment le mortier ou le béton est moins solide. Donc moi, c'est ma première réponse. J'ai ce choix là. C'est une opinion personnelle. Les deux sont jouables, hein, évidemment.
Ensuite, pour votre... J'ai entendu parler de problème de ventilation quand c'était scellé. Ou...
Non, la ventilation, faut pas rêver, elle va se faire par des chatières, hein, ce que vous allez avoir sur votre couverture, elle se fait pas spécialement par le fêtage. Bon, évidemment, il y a une question de circulation, mais moi je suis un peu traditionnaliste, c'est pas forcément mon genre, mais j'aime bien le système à l'ancienne, on sait que ça tient.
Pour le thermostat,
bah vous allez avoir un thermostat d'ambiance qui va être dans la pièce principale avec votre plancher chauffant, et puis avec une programmation, avec tout ce qu'on peut avoir, et ensuite vous allez avoir des robinets thermostatiques qui aujourd'hui sont pilotables donc avec une box connectée, et ce qui va vous permettre d'avoir une gestion individualisée pièce par pièce sans avoir besoin d'un deuxième thermostat. Le thermostat d'ambiance, il est placé dans la pièce principale. C'est surtout avec un plancher chauffant, c'est extrêmement efficace.
Avec aujourd'hui des thermostats qui ont beaucoup évolué, hein, qui sont voilà, connectés, Christian, il y a des choses incroyables.
C'est tout à fait. On pilote au demi-degré près. Pilote au demi-degré près, notamment avec aussi les robinets thermostatiques.
Voilà, et puis on peut mettre en route, à distance. Il y a des systèmes de géolocalisation maintenant.
Ça peut apprendre votre fonctionnement de vie.
C'est ça, exactement.
Hein, c'est-à-dire que ça va s'ajuster. Si vous avez l'habitude de rentrer à 6h du soir, bah ça va tout seul. On peut le programmer aussi, mais ça va être capable même. Vous allez pouvoir à distance effectivement prévenir que vous allez arriver une heure plus tard, et donc ce n'est pas la peine.
Alors je ne sais pas si vous êtes au courant.
Et même avec ça pilote avec la voiture, ça repère.
Ce système, c'est-à-dire que votre smartphone en fait est connecté au thermostat ou la voiture, mais en général c'est smartphone parce que tout le monde d'un smartphone dans la famille, et dès que vous revenez dans un rayon proche de la maison, et bien le chauffage se met en route parce qu'ils estiment que vous allez rentrer, et quand vous partez, et bien le chauffage s'arrête tout seul.
C'est de l'intelligence artificielle.
Exactement.
Et ça risque pas d'avoir une différence de température entre le rez-de-chaussée et le premier étage?
Non, parce que vous allez avoir une gestion avec vos radiateurs. Vos radiateurs, vous allez les piloter avec, je le disais, les robinets thermostatiques, et donc ça va gérer de façon très fine au niveau de la localisation des appareils de chauffage.
Christian, on termine avec le coup de cœur. Votre coup de cœur, on va parler des dossiers de demande de subvention de l'ANA.
Oui, alors Madame Valérie Mancret-Taylor, qui est la nouvelle directrice générale de l'ANA, lors d'une visioconférence récente de l'AGICAM, l'Association des journalistes de la construction et de l'aménagement de la maison, que je me permets de recommander à tous les professionnels, parce que j'en ai été président et j'en suis le vice-président aujourd'hui, donc l'AGICAM. Dans cette visioconférence, Madame Mancret-Taylor a annoncé que le dossier qui était complet, qui avait été validé, aurait été payé à la fin de l'année.
Bon, alors on est le 2, donc
on va peut-être pas tout de suite s'énerver.
On peut leur faire confiance.
Il y a à peu près 10 000 dossiers qui sont actuellement en instance de paiement. Alors c'est vrai que l'ANA a été quand même extrêmement perturbée par la Covid, comme un peu tout le monde, mais en plus c'est une année où on leur a demandé beaucoup d'efforts, ils en ont fait beaucoup, l'ANA en a fait beaucoup, donc on peut espérer qu'en tout cas ça soit réglé très très rapidement. Je rappelle l'importance de que des dossiers soient bien rédigés, qu'ils soient faits dans les normes pour éviter les retours incessants avec l'administration. L'objectif 2021, je le disais tout à l'heure, c'est 600 000 logements. On est bien loin des 170 000 qui ont été traités cette année. Je râle souvent à propos de l'administration. Je tire quand même un coup de chapeau à l'ANA qui n'a pas été noyé sous les sous la pression des dossiers et qui est tout à fait a priori au point pour attaquer une bonne année 2021.
Une bonne année, on peut même dire.
Une bonne année.
Voilà. Comme ça,
j'en profite aussi pour faire un petit bisou à ma nouvelle petite fille.
Oui.
Qui s'appelle Ella, qui est la fille de Sébastien.
Voilà.
On et donc qui est.
Vous m'avez montré sa photo, elle est très très jolie.
Elle est très très jolie. Hein.
Voilà. Bah écoutez, une aventure se termine, celle de votre week-end des experts et votre maison. Oui. Christian, évidemment, j'étais ravi de vous accueillir.
Ça a été un
et
plaisir
d'être votre compère depuis toutes ces,
ans, hein,
depuis
19
toutes
ans
ces années.
De travailler ensemble.
Voilà. Et je vous rappelle que bien sûr, dès la semaine prochaine, vous retrouverez une matinale commune, RMC et BFM TV, avec une toute nouvelle équipe. Christian, merci, bon vent. Renault Info Maison. Pour vous suivre,
merci.
Évidemment, pour tous nos auditeurs et puis pour tous ceux qui se disent mais où va passer François Sorel ? Ben moi, je vais pas vous laisser comme ça parce qu'en fait, c'est aussi le mercato des journalistes. Moi, je pars d'RMC, je quitte RMC pour aller sur BFM Business à partir de lundi. Je vous retrouverai dorénavant tous les soirs pour une émission qui s'appelle Tech & Co qui est dédiée à la tech. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec Raphaël Grabli tout à l'heure. Merci Christian.
Bonne année à tous et
une grosse bise à Annie aussi.
Oui. Voilà. Mon épouse.
La météo, les infos, et on enchaîne. Ce sera avec Christian Aquia. À tout de suite.